Et midi, pile poil sur France Culture. On va faire tout de suite un point sur l'info avec les titres d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Londres va finalement donner suite au projet de construction de deux réacteurs de type EPR à Hinkley Point. Un projet qui était controversé de 18 milliards de livres, qui est porté par le français EDF, donc avec le soutien d'une compagnie chinoise. Succès indéniable pour l'industrie française, affirme Michel Sapin, qui voit une contribution importante au soutien de l'emploi en France. Et le PDG d'EDF affirme que ce projet marque la relance du nucléaire en Europe. On verra tout cela tout à l'heure avec Cécile de Carvaz-Doué. La contestation contre la loi travail qui tente de survivre au vote du projet. Les syndicats organisent dans toute la France une dernière journée de grève et de manifestation pour en réclamer l'abrogation. L'ouverture aujourd'hui à Bastia du procès de la RICS, survenu le 13 août dernier sur la plage de Cisco, entre des familles marocaines de Corse et des villageois, suivi avec Marie-Pierre Vérot, donc de ce procès qui s'ouvrira tout à l'heure. Enfin, au Brésil, l'ancien président Lula da Silva est inculpé pour corruption, blanchiment dans le cadre de l'enquête sur le scandale des rétrocommissions au sein de la compagnie pétrolière publique Petrobras. Et le parquet accuse même Lula d'avoir été le chef suprême du réseau de malversation au sein du groupe pétrolier public. On verra tout cela avec Nadine Epstein. Une dernière question, comment est-ce que la presse peut encore toucher le jeune public? 8 médias français, parmi lesquels Le Monde, L'Équipe et Paris Match, se lancent sur la rubrique Discover de Snapchat. Et c'est Éric Chavroux qui nous en parlera. L'invité de la séquence interview, Pierre Jacquemin, ancien conseiller de Myriam El Khomri, qui publie un livre intitulé « Ils ont tué la gauche chez Fayard ». Voilà pour les titres. Olivia Jesbert, c'est à vous, la grande table.
On est ensemble jusqu'à 13h30. Vous nous rejoignez tout à l'heure pour la deuxième partie de la grande table. Antoine, mais d'abord pour votre journal à midi et demi. Bonjour à tous. Comme un jeudi, on revisite nos classiques et on se prend une petite leçon de la direction. Dans la deuxième partie de l'émission, le management en mouvement, comment lui donner de l'ampleur. Mais oui, ça rime parfois avec bonheur. Ce midi, critique de la condition managériale avec le philosophe Ghislain Deslandes. Mais d'abord, Blaise Cendrard à l'honneur des 11e rencontres de Chaminadour ce week-end. Mathias Sénard et Olivier Rollin, deux écrivains pour un voyageur monde, un auteur culte de la prose du transsibérien, de l'or à la main coupée, une pluie d'étoiles pour le manchot céleste ce midi. Bienvenue à vous, la grande table se tweet, se like et se télécharge. On est ensemble, en tout cas, jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Jesbert.
Je crois que tout est inconnu dès qu'on commence à faire quelque chose et qu'on peut naître pour la première fois ou même pour la millième fois dans la même maison, dans une maison qui est toujours la même, où l'on découvre chaque fois de nouvelles choses. Un écrivain qui fait de nombreux retours sur soi-même comme moi, eh bien, que voulez-vous, fait jamais, ne monte jamais le même escalier, ne descend jamais dans la même cave, n'est jamais à l'affût au sommet de la même tour. Il découvre toujours et sans cesse du nouveau. Tout dépend de l'heure, du climat, du moment, de l'humeur, de la fatigue.
La fatigue, mais d'abord la nouveauté sur la route de Blaise Cendrard à l'honneur des rencontres de Chaminadour qui s'ouvre aujourd'hui à Guéret dans la Creuse et où vous serez bientôt, messieurs. Sur cette route bordée de poésie qui a traversé le monde, croisé la guerre, trouvé les mots, on s'arrête ce midi avec deux écrivains. Olivier Rollin, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, donc journaliste, auteur de Port-Soudan, Tigre du Tigre de Papier ou encore de Veracruz. Dernier roman très sensuel paru chez Verdier. À vos côtés, Mathias Sénard, bonjour.
Bonjour.
Écrivain également, prix Goncourt de 2015 pour Boussole, publié chez Actes Sud, mais également auteur de Rue des Voleurs ou encore de Zone. Merci à tous les deux d'être ici avec nous à paraître. Mathias Sénard, dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone, ça c'est du titre. C'est le titre d'un recueil qui va paraître, un recueil de vos errances et de poésie, une géographie toute personnelle où l'on croise vos compagnons d'écriture, dont Blaise Cendrars, préfacé par vous, Olivier Rollin. Et d'ailleurs, je vais commencer en vous volant un peu vos mots. Qu'est-ce que vous avez en commun tous les trois, Blaise Cendrars et vous? Qu'est-ce qui vous rapproche, si ce n'est peut-être d'être des hommes de livres qui avaient goûté tous les trois à la mélancolie des paquebots, Olivier Rollin?
Oui, j'ai même eu cette chance, puisque Mon âge fait que j'ai voyagé autrefois sur des paquebots. Maintenant, ça ne se fait plus.
Si, on peut encore.
Oh non, des paquebots de croisière, mais ça, c'est de la...
Non.
Mais si.
Mais non, au départ de Marseille, vous pouvez prendre des paquebots.
Non, des ferries.
Attendez. Non.
Des ferries, il y a des paquebots de croisière. Mais des paquebots de ligne qui allaient en Amérique du Sud, etc., ça a disparu depuis quand même un moment, une cinquantaine d'années. Et enfin, donc, j'ai eu cette chance-là quand j'étais gamin. Oui, la mélancolie des paquebots, bien sûr, mais...
Derrière la mélancolie des paquebots, il y a quoi? Il y a le goût du voyage.
Je sais pas, l'intérêt, la curiosité passionnée, je crois, enfin, pour le monde, et voilà, que je partage avec Mathias et avec Blaise. Ça n'est pas pour me vanter, mais là, je reviens pas tout à fait, mais enfin, il y a 2 mois, j'étais en Sibérie, tout au bout de la Sibérie, jusqu'à l'île de Sakhalin, que Blaise n'a pas visité, mais que Tchekhov a visité. Voilà, donc je crois ça, la passion de prendre le monde à bras-le-corps, enfin, parler d'à bras-le-corps pour Blaise Sandrard qui était manchot, c'est évidemment un peu... Mais voilà, je crois qu'il y a ça.
On peut tout se permettre. Et la Sibérie, vous savez qu'on y était, nous aussi, lundi midi, avec André Makine, hein, qui nous a amené
en
Sibérie. Nous aussi, on voyage un petit peu. Mathias Sénard, cette nostalgie, cette mélancolie...
Effectivement, la mélancolie des paquebots, pour moi, c'était une vraie mélancolie, puisqu'effectivement, je n'ai pas connu les messageries maritimes... et toutes ces belles embarcations qui sillonnaient la planète. Mais c'est vrai que sans doute, Sandrars m'a transmis un goût du voyage, de l'exploration. Alors évidemment, pas tellement, peut-être pas pour moi les voyages aventureux, mais en tout cas, oui, un certain souci du monde et des livres aussi, de se dire que finalement la littérature et le plaisir de la littérature, ça fabrique aussi un voyage en soi. Et comme il disait lui-même, s'il a pris le transsibérien ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, il nous l'a fait prendre à tous. Et dans ce fait de nous le faire prendre à tous, il y a aussi un des plaisirs de la littérature qui est justement de vous faire voyager sans quitter votre chambre. Un peu comme Stevenson a écrit L'île au trésor alors qu'il est malade, enfermé dans sa chambre. Et ça, c'est des grandes forces de la littérature, je crois.
Mais c'était un écrivain boussole, quand même, pour vous, Blaise Sandrard, c'est-à-dire qu'il montrait un peu le chemin?
Ça l'a été, en tout cas. C'est vrai que pour moi, dans mon adolescence, quand j'avais 13-14 ans, c'est vraiment Sandrard qui m'a fait sortir de ma chambre, qui m'a donné envie de parcourir le monde et la littérature. Oui.
Olivier Hurlin? Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, moi aussi. Enfin, la prose du Transsibérien, comme pour beaucoup, c'était une lecture de jeunesse et voilà, qui me paraissait ce train que je connaissais à travers. D'abord, j'aimais cette poésie qui me semblait, qui est moderne. Enfin, qui où il y a des locomotives, des revolvers, des prostituées, etc. Enfin, ça changeait un peu une bêtise là, mais ça changeait un peu de Mallarmé. Parce que Mallarmé était aussi une de mes passions de jeunesse. Mais quand même, là, il y a, ça pulsait plus, quoi. Bon, et je veux dire, il y a aussi une chose que je crois que Mathias et moi aimons chez Blaise Sandrard, c'est il ne se gêne pas avec les mots, si j'ose dire. Enfin, dire que très souvent il en fait trop, mais voilà, il y a une espèce d'orgie de mots. C'est pas un minimaliste, quoi. Il aime pas les purs, il aime pas le bon. Et ça, c'est bien, cette passion des mots.
Alors il faut quand même essayer d'interroger ensemble cet héritage, ce legs, hein, qu'il laisse aujourd'hui. Pourquoi tant d'auteurs comme vous se réfèrent à lui, à un écrivain si peu étudié, hein, c'est ce qu'on se disait. Peut-être par moins reconnu par l'institution, par l'académique et notamment l'école. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il était quelque part un poète de la mondialisation? Qui était Blaise Sandrars, si ce n'est d'ailleurs l'homme qui aimait regarder atterrir les avions?
Aujourd'hui, mon cher Michel Malnal, je suis particulièrement de bon humeur et vous pouvez me demander tout ce que vous voudrez. Oui, et savez-vous pourquoi je suis de bon humeur? Je suis de bon humeur parce que j'ai été attendre un ami à l'aérogare des Invalides. Cet ami n'est pas arrivé. Je suis resté porter 2 heures et durant 2 heures, j'ai vu partir et arriver des avions et des gens qui arrivaient de tous les coins du monde et qui partaient dans toutes les directions. Et mon chien roupillait, mon petit wagon lit roupillait. Alors j'ai réveillé d'un énorme coup de pied, je dis, écoute mon vieux, pour une fois que tu as l'occasion de faire fonctionner ton flair, vas-y donc. Et enregistre, et souviens-toi, des différentes odeurs du monde.
Voilà, on parle d'une écriture, mais on pourrait aussi parler d'un parler, tiens, d'un verbe, hein, son flair, comme disait Blaise Cendrars. Reconnaître le monde à ses odeurs. Est-ce que c'est ça la vraie définition du voyageur, Olivier Rollin?
Bien que je sois muni d'un grand nez, je n'ai pas un odorat extrêmement fin. Mais oui, bien sûr, oui, à ces odeurs ou à ces bruits. À vrai dire, il y a une chose que je regrette d'avoir jamais faite, c'est d'enregistrer les bruits de chaque ville que j'ai traversée. Les bruits du Caire, les bruits de Rome, les bruits de Moscou, etc. Enfin bon, voilà. Moi, je suis plutôt du côté des oreilles.
Et de la main, et de la plume.
Et de la main,
des deux,
ouais,
on l'aura compris.
Et des yeux que de l'odorat.
Mathias Sénard.
Oui, mais j'ai repris d'ailleurs un peu cet extrait en transformant pour mon texte, pour le programme des rencontres de Chenille Tour. J'aime cette idée que quand on a tellement voyagé comme lui, quand on a, le monde est en vous, au point que on puisse reconnaître la provenance des voyageurs au parfum qu'ils ramènent avec eux.
Et c'est ce qu'il raconte dans cet extrait, hein, que vous avez effectivement retrouvé et publié, où il voit apparaître le tailleur du Caire, il voit reconnaître, enfin, il peut tout distinguer chaque voyageur à son allure et son parfum.
Pour ça, évidemment, ça suppose une connaissance quand même du monde extraordinairement profonde et intérieure pour que justement, tous ces parfums, ces odeurs se soient imprégnés dans vos fosses nasales et activent les zones de la mémoire. Et sans doute parce que je suis encore jeune et que je n'ai pas assez voyagé, je n'ai pas du tout ce pouvoir. Voilà, et puis le kérosène sent un peu partout pareil, en fait, il faut bien le dire.
Et à propos de pas assez voyager, quel monde Blaise Cendrars nous invitait à célébrer pour vous, Mathias Sénard?
Ben c'est assez différent. Alors, il y a plusieurs Blaise Cendrars. Il y a d'abord le Cendrars d'avant-guerre, donc d'avant la guerre de 14. Qui est ce premier poète des Pâques à New York, de la fin, une espèce de fin mystique, une fin de bonheur, une fin de découverte du monde, le poète du transsibérien, le voyageur. Et puis, il y a l'homme, finalement, qui, après-guerre, donc où il est très gravement blessé, puisqu'il perd l'avant-bras...
droit dont il sera amputé, et il faudra d'ailleurs qu'il apprenne à écrire avec la main gauche.
Avec la main gauche. Ouais. Et puis, après-guerre, finalement, il commence un grand cycle de mémoires, alors, qui sont des mémoires sans être des mémoires, dit-il, et où il va revenir sur sa vie en rajoutant, en inventant des épisodes. Il faut voir que c'est quelqu'un qui, en quelques années, a une production assez gigantesque, puisqu'il écrit, donc il abandonne, ou il met de côté, en tout cas, l'activité poétique pour se consacrer aux romans, romans biographiques sur des personnages qui le fascinent, et à ses souvenirs, qui sont organisés sur plusieurs époques. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ces livres-là qu'il est le plus célébré, pour Bourlinguer, pour Le lotissement du ciel. Et aujourd'hui, comme romancier, il est peut-être un peu oublié, mais il a quand même écrit un immense roman qui est Moravagine, un texte très difficile à qualifier. C'est à la fois un roman anarchiste, un roman plein de vie, un peu un roman policier. Histoire avec ce personnage de Moravagine extrêmement inquiétant. Et donc, Cendrars, c'est plusieurs personnes à la fois.
Olivier Rollin.
Je ne sais pas si Olivier est d'accord avec moi, mais...
On ne veut pas savoir. Olivier Rollin, non, on ne veut pas savoir. Ouvrez votre livre pour l'instant. Vous allez nous lire quand même maintenant quelques mots, quelques lignes.
Mais je pourrais intervenir un peu sur ce
après, peut-être vous pourrez le commenter. Mais juste pendant que Olivier Rollin prend son souffle, Mathias Sénard, est-ce que vous diriez quand même que Blaise Cendrars était quelque part le représentant d'une forme d'érudition universelle aujourd'hui, puisque c'est un mot qui a la cote?
Alors, universel, oui. Érudition au sens d'une érudition du quotidien. Et non seulement c'est un vrai lettré, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui cite beaucoup, qui parle aussi beaucoup d'auteurs. Il s'imagine, enfin, il se représente souvent lui-même dans une bibliothèque, par exemple, à la bibliothèque russe, où il est là en train de lire des très vieux textes et des manuscrits enluminés. Mais il a ce souci du plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il s'intéresse vraiment aussi au quotidien, au populaire, aux garçons de café, aux gendarmes, aux choses qui l'entourent, aux animaux aussi, aux perroquets, toute une foule, aux tatous. Voilà.
Et même aux saisons, Olivier Rollin. Et
même aux saisons, oui.
Qu'est-ce que vous allez nous lire ?
Je vais vous lire, alors, et même au voyage, et là c'est un voyage intersidéral, intergalactique, et c'est un poème qui s'appelle Le Bas, je dis pour les quelques auditeurs, de France Culture,
qui ne sauraient pas ce que c'est
qu'un Eubage, c'est une sorte de prêtre astrologue gaulois. Donc c'est un voyage intersidéral. Après avoir levé l'ancre, alors ça c'est le mois de mars, après avoir levé l'ancre, nous quittâmes la Terre pour entrer dans cet océan de lumière solaire qu'est notre atmosphère respirable. Ayant atteint ses extrêmes limites, nous nous engageâmes résolument dans les rapides de la région de l'ozone. Nous allions si vite que nous ne pouvions estimer la vitesse acquise et qu'il nous semblait rester immobile. La Terre était invisible dans notre sillage et devant nous les astres n'existaient plus. Enfin, nous fîmes la grande chute dans le vide éclaboussée par une écume d'étoiles. Nous louvoyâmes devant la grande ourse durant 7 siècles d'horloge, passant souvent sous les arcs-en-ciel noirs. Puis, ayant doublé le cap d'Orion, nous piquâmes droit devant nous dans la direction du sud, qui est le nord du ciel. Nous pêchions des êtres interstellaires qui nous ébahissaient tant ils nous semblaient étranges, mais dont la chair exquise nous régalait et était un précieux adjuvant à l'ordinaire de l'équipage. Tout le monde était gai et bien portant. À l'exemple de mes hommes, je secouais l'espèce d'hébétement qui s'était emparé de moi en voyant réussir ce départ inespéré. Je donnais ordre de hisser notre grand pavillon d'or aux armes de la passion humaine, et je m'approchais d'un hublot. Voici ce que j'ai vu en sortant de mon esprit en chair de poule. Derrière la voie lactée, il y a une anguille ou espèce de serpent du ciel, elle se nourrit des soleils qui grouillent dans la vase de la profondeur. Son œil est comme le trèfle à 4 feuilles de l'espace, et au bout de sa queue, comme des grelots, des mondes en éruption marquent le temps. De chaque écaille de sa peau, quand elle pèle, tombe une comète, et la digestion de cet être-là est la lumière. Elle est prise comme un ver de terre dans une racine, dans le pied d'une éponge qu'elle ronge et qui la cache presque en entier. Chaque pore de cette éponge respire et geint comme une génération humaine. Cette éponge est éponge des ténèbres, touffe des langues, orgue des origines. Comme un cerveau dans un crâne, elle se moule dans la première forme. Elle est l'échantillon primaire le plus simple, le plus élémentaire, d'une famille d'êtres à rebours, inqualifiables et inadmissibles, aux antipodes de l'unité.
Olivier Rollin, lisant du Blaise Cendrars. Justement, Olivier Rollin, on a beaucoup interrogé et raconté quelque part la place du jeu dans l'œuvre de Cendrars, comme dit notre ami Jean Lebrun, un Cendrars à la fois insaisissable et qui savait se surexposer lui-même à travers son œuvre, une œuvre très autobiographique par fragments, mais qui mêle aussi beaucoup d'imaginaire, et vous venez de nous le prouver. Dans ce mélange des genres littéraires, vous y retrouviez vraiment sa patte à lui ?
Sa patte à lui, certainement. Je veux dire, qui il était, je crois que je vois à peu près, mais au fond, je m'en fiche. Enfin, encore une fois, est-ce qu'il a trafiqué de l'or et de l'argent, etc., en Sibérie, avec son patron, le joaillier, je m'en fiche. Est-ce qu'il a... Je sais en tout cas que c'était un type qui échappait à la vie un peu bourgeoise des lettres françaises, des lettres parisiennes. C'était quand même un type qui avait fait la guerre, qui avait perdu un bras, qui était un ancien légionnaire. C'était quand même un grand voyageur. C'était bon, voilà. Je sais qu'il était comme ça. Le retrouver, lui, je m'en fiche un peu. Je retrouve toujours sa patte littéraire. Je retrouve toujours sa personnalité littéraire excessive. Je retrouve toujours son imagination fulgurante. Alors, je le retrouve toujours, et en même temps, je dois dire, je le retrouve, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Mathias, je retrouve y compris dans ses excès et y compris dans ses déplorables excès, parce que voilà, je veux dire, il y a des choses absolument extraordinaires dans l'œuvre de Sandrard, et je suis d'accord avec Mathias, Moravagine est un des grands romans initiateurs du XXe siècle, quoi, qui change quelque chose dans la littérature du XXe siècle et qui est trop injustement oublié. Mais il y a aussi des choses, dans cette espèce d'immense torrent qu'est son œuvre, il y a des choses médiocres, il faut le dire. Enfin, il y a des choses qui sont du mauvais reportage, où il joue les fiers à bras, etc. Enfin voilà, il y a de tout. Mais il y a tant de choses qui sont admirables que ça suffit pour faire un grand écrivain.
Ce qui est normal, parce que Sandrard n'a jamais cessé d'écrire. Il écrivait tout le temps. Hein. Il écrivait des romans, des reportages, des récits de voyage, de la poésie, des correspondances. Avant d'en venir à sa poésie avec vous, Mathias Sénard, Sandrard a écrit à son frère en 2011, dans sa correspondance, notamment cette phrase: « C'est une question de vie ou de mort que celle de construire sa vie, la plus importante après celle de l'inspiration. Les deux sont d'ailleurs très intimement liés. » Sandrard était partout à la fois, dans une sorte de désir de fuite, ou une sorte de quête de sens, va savoir. C'était un écrivain en permanence sur le fil entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, cette question de la mort le préoccupait aussi beaucoup. Écrire, c'est brûler vif, mais aussi renaître de ses cendres, écrit au début de L'homme foudroyé. Sa vie et son corps et donc son écriture ont été marqués par la violence, par la guerre. Est-ce que pour lui, pour vous, l'écriture avait quand même une fonction un peu thérapeutique?
Pour lui, je n'en sais rien du tout. Sans doute. Et d'ailleurs, son nom, son pseudonyme, hein, il ne s'appelle pas Blaise Sandrard, enfin, il ne naît pas Blaise Sandrard, c'est un nom qui se choisit par la suite. Et justement, les cendres de celui qui renaît de ses cendres après, peut-être, raconte-t-il, un incendie à Saint-Pétersbourg dans lequel aurait péri celle qu'il aimait, et, alors qu'il était tout jeune en Russie. Et c'est de peut-être des cendres de cet amour que naît le poète ou l'écrivain Blaise Sandrard avant même de devenir un voyageur.
Et lui, quelle valeur donnait-il à l'écriture? Écoutez.
Écrire, c'est peut-être abdiquer. Qu'est-ce que vous entendez par là?
D'abdiquer? Qu'écrire, ce n'est pas réellement vivre. Ce n'est pas la vie du corps. On veut s'excuser en disant que c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est la contemplation. Écrire, c'est pour nous autres, aujourd'hui, hélas, un gagne-pain. Et pas le plus drôle de tous, ni le plus adroit. Il y en a qui rapporteraient beaucoup plus. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte, 9 fois sur 10. Par jamais, j'ai été un monsieur qui écrit dans un cabinet, tant d'heures par jour, etc. J'ai essayé de le faire ces dernières années pour rattraper le temps perdu durant l'occupation. Eh bien, au bout du 3e, 4e, 5e volume, je crois que j'en ai fait 5, j'en ai marre. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est de m'arrêter de nouveau.
Ah oui, vous pouvez en avoir marre aussi, ben, hein, parfois, Olivier Mathias.
Oui, c'est vrai. Oui, on sent que d'ailleurs, à la fin de sa vie, il en a marre. Ça se sent dans ses derniers écrits, qui ne sont sans doute pas pleins de cette énergie qui fait justement, qui rend son œuvre magnifique.
Mais c'est ce que dit Olivier Rolland. Hein. Tout n'était pas forcément bon. Oui,
un mot. Est-ce que je peux citer?
Et après, on écoute,
oui,
Mathias.
Parce qu'il y a une phrase que j'adore de Henry Miller, qui dit que quand il a lu Moravagine, il a eu l'impression de lire un texte phosphorescent à travers des lunettes de soudeur. Et je trouve ça, c'est magnifique, c'est tout à fait ça, Moravagine. Et la littérature, ça doit être ça. Ça doit être un machin qui brûle les yeux, qu'il faut lire à travers des lunettes de soudeur.
Et à propos de brûleur des cœurs, on oublie souvent que c'était aussi donc un grand poète, Blaise Sandrard, ce qu'on a l'habitude de rapprocher d'Apollinaire, à tort ou à raison, de poètes modernes qui se côtoyaient d'ailleurs, qui se connaissaient. Il y a cette affaire des Pâques à New York qui aurait influencé Apollinaire, notamment dans l'écriture du poème Zone, qui vous a à votre tour influencé, Mathias Sénard, pour votre roman éponyme qui est paru en 2008. Sandrard, c'est un poète novateur. Et vous allez nous lire, justement, avant de nous quitter, un extrait de une de ses poésies, un poème de lui: « Tu es plus belle que le ciel et la mer ».
Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins, ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kilos, je t'aime.
Plus belle que le ciel et la mer, une lecture de Mathias Sénard de Blaise Cendrars que vous retrouverez tout au long du week-end si vous le souhaitez aux rencontres de Chaminadour qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'à dimanche à Guéret dans la Creuse. Et on entend quelques notes d'Éric Satie, je crois qu'il s'aimait aussi beaucoup, Éric Satie dont on fête cette année les 150 ans. Et oui, déjà, et voilà que vient de nous rejoindre François V, notre partenaire du Parisien Magazine. Bonjour à vous. Ce midi avec vous, François V, restez avec nous, Mathias Sénard, Olivier Rollin. Trois icônes de la culture populaire, Amélie Nothomb, Hergé et Ben, Malattendu et Préjugé.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que j'ai décidé de prendre la défense d'Amélie Nothomb. Elle ne m'a rien demandé, bien sûr. Je l'admire depuis longtemps et je lui suis fidèle roman après roman. Bien sûr, vous avez déjà votre avis sur Amélie Nothomb. Et peut-être trouvez-vous qu'elle en fait trop. Et c'est vrai qu'elle écrit trop de livres. En cette rentrée, elle publie son 25e roman, Riquet à la houppe, à ton idée. La Belge en livre un par an avec la régularité d'une montre suisse. Arrêtons-nous deux secondes sur le fait qu'elle prétend ne publier qu'une partie de ses manuscrits, à raison de 4 rédigés pour un publié chaque année. Elle m'avait expliqué cela quand j'étais allé la voir naguère dans l'appartement de ses parents à Bruxelles. Amélie Nothomb prétend ainsi réserver à son public le meilleur, la quintessence de son art. Ensuite, elle s'est créé un personnage public qu'elle a soigneusement mis au point et auquel elle se tient, le chapeau noir, les robes noires, le champagne dont elle fait une consommation abondante. Cela peut agacer. Elle est devenue une marque, elle cultive son image. En plus, facteur aggravant, elle assure comme personne le service après-vente. C'est ainsi qu'elle consacre ses matinées à répondre aux courriers de ses lecteurs et passe des heures à dédicacer des ouvrages dans les salons du livre. Elle voit cela comme un juste retour des choses, étant excessivement bien élevée et se trouvant plutôt gâtée d'avoir des millions de lecteurs, dont énormément de jeunes.
Alors, il y a ceux qui n'aiment pas Amélie Nothomb et qui trouvent que ses livres se ressemblent tous. Mais vous,
oui,
les avez comparés ?
Eh bien, écoutez, voilà, alors je vais tout vous dire, je les ai lus, les 25, donc j'aggrave mon cas. Et il me semble qu'il y a deux Nothomb. Il y a celle qui se raconte, qui retrace sous forme de fiction son existence, qui est assez incroyable, de fille de diplomate qui a connu le Japon, le Bangladesh, la Chine. Et puis la boulimie, l'anorexie, ses phobies. Elle a beaucoup souffert et elle se moque d'elle avec une férocité sans pareille. Et puis il y a celle qui écrit des fables en forme de roman qui peuvent devenir de vraies pièces de théâtre et dans laquelle elle décortique l'absurde, le mal, questionne le beau, le laid, bouscule nos certitudes, nos conformismes. Et c'est le cas à nouveau de son dernier roman, que je prends donc le risque de vous recommander. Au passage, j'en profite pour vous signaler la parution de son discours de réception à l'Académie royale de Belgique, où elle occupe désormais le siège laissé par Simon Lès.
On passe à Tintin et Hergé, parce qu'il y a une grande exposition qui va s'ouvrir. Hein. Vous avez le même amour pour eux ?
Et non, et je dois l'avouer, enfin, d'ailleurs, je vais dire les choses très simplement. J'adore Tintin et je déteste Georges Rémy alias Hergé. Et pourquoi ? Eh bien, écoutez, quand on se plonge dans la biographie d'Hergé, que publie dans une nouvelle édition Benoît Mouchard et François Rivière, on est atterré par la manière dont Hergé s'est comporté durant sa jeunesse et pendant la Seconde Guerre mondiale. En lisant leur Hergé intime, on découvre la face sombre d'un homme hanté par la folie de sa mère, baignant dans un milieu d'extrême droite auquel il ne trouve rien à redire et colle à tous les préjugés antisémites. Collaborateur de la presse de collaboration, il fait le jeu de l'occupant, s'aligne sur ses thèses, se montre à la fois aveugle et lâche dans les pires circonstances. En bonne logique, il aurait dû être lourdement condamné à la libération. Et bien, il s'en est sorti par une nuit de prison, ce qui est dérisoire compte tenu de ses propos et de son comportement. Mais voilà, le meilleur de l'homme réside dans ses albums. Et c'est ainsi que Riyad Satouf nous a confié qu'il avait découvert le trésor de Rackham le Rouge. à 4 ans et que les albums de Tintin l'avaient tellement marqué que cela avait déclenché son envie de devenir auteur de BD à son tour.
Et je vous coupe la parole maintenant, François V. Merci beaucoup de Ben. Vous ne pourrez pas parler, mais nous, on en parlera, puisque on a visité cette exposition qui a commencé au musée Mayol, qui vient de rouvrir ses portes à Paris, et que vous l'entendrez dans La Grande Table, première partie, lundi ou mardi. On verra. Merci beaucoup, François V.
Merci à vous.